Chapitre 5e. De cet art, dont nous venons d'essayer d'indiquer les principes, si nous voulons maintenant trouver les meilleurs spécimens, ce n'est pas dans les romans de Maupassant qu'il faut les aller chercher. Non certes qu'ils soient sans mérite, mais Maupassant y est moins original, y étant davantage sous la dépendance des modèles voisins. Il ne forme pas sa part de contribution la plus personnelle au mouvement contemporain, et si Maupassant ne les eût pas écrits, on comprend bien qu'il y manquerait de belles pages, et qu'il y manquerait même un beau livre, Pierre et Jean. Mais il n'y manquerait rien d'essentiel. D'ailleurs, l'écrivain n'est pas à l'aise, dans le cadre trop vaste pour lui du roman. Habitué à voir la réalité découpée en petits tableaux complets, il compose un roman d'une nouvelle agrandie ou encore d'une succession de nouvelles, et vite lassé, à la manière des nerveux, ce n'est pas son goût de vivre longuement et de faire longue compagnie avec ses personnages. Il préfère, ayant campé hardiment un bonhomme, passer à d'autres. La multiplicité des besognes lui agrée mieux que la lenteur d'une seule. Puisque d'ailleurs, il n'admet pas qu'il y ait un type de roman, et puisque d'après lui, toutes les formes en sont bonnes, pourvu que l'auteur y ait réalisé son dessein, c'est sur ses intentions mêmes que nous le jugerons. À son roman « Une vie », il donne le sous-titre « L'humble vérité ». Et il semble donc n'avoir voulu pour cette fois qu'esquisser l'image d'une vie semblable à beaucoup d'autres. Mais, accumulant sur la tête d'une seule personne toutes les tristesses de la vie, il fait d'elle véritablement une privilégiée. Son cas, qui ne cesse ni d'être possible ni d'être vrai, n'est du moins pas d'une vérité humble, étant d'une vérité d'exception. Dans Bel Ami, il a voulu faire passer sous nos yeux les tables variées de l'existence d'une sorte d'aventurier de l'être. Mais de tous ses livres, c'est celui qui laisse la plus forte impression de monotonie, et le seul peut-être qui par endroits donne celle de l'ennui. C'est que le journaliste de roi, n'ayant pour réussir d'autre raison sinon qu'il est un beau mâle, et n'ayant pour parvenir qu'un moyen, celui de la nature, la répétition à la longue et malgré tout en devient fatigante. Dans Mot Auriol, le cadre est bien vaste, pour une aventure qui gagnerait à être plus lestement contée, et qui de fait l'a été maintes fois par Maupassant lui-même. Ou plutôt, on saisit trop ici le procédé, emprunté par Maupassant aux écrivains de l'école naturaliste, et qu'il eût mieux fait de leur laisser. Il consiste à rattacher à l'aide d'une aventure quelconque, et qui aurait pu être différente étant par elle-même insignifiante, la série des documents et des notes prises sur un milieu. Enfin, quittant ce qu'il appelle le roman objectif pour la forme qui en est exactement le contraire, le roman de psychologie, Maupassant a prouvé par le succès de Pierre et Jean que son talent n'était pas seulement vigoureux, mais qu'il était souple et pouvait se prêter aux recherches les plus différentes. Si néanmoins il n'a retrouvé le même succès ni dans Fort comme la mort, ni même dans Notre cœur, c'est peut-être qu'il pouvait bien faire dans le domaine de l'étude psychologique une excursion, mais que ce domaine n'était pas le sien, les personnages qu'il comprend le mieux étant aussi les moins compliqués, et les sentiments dont l'étude lui appartient en propre ne se prêtant guère à de subtiles analyses. C'est dans la nouvelle que Maupassant est tout à fait supérieur et au point de défier toute rivalité. Il est un créateur, ce qui est la condition indispensable pour être un maître. Il a renouvelé le genre, il l'a remis à la mode. À cette vogue retrouvée du genre, nous devons la masse des contes médiocres et des nouvelles insipides dont nous sommes inondés chaque jour, la nouvelle étant devenue article de production courante et ayant sa place dans les journaux entre la chronique fantaisiste et l'article d'information. Ainsi se trouve confirmée la règle qui veut que nous payions cher chacun de nos plaisirs, et la loi est appliquée d'après laquelle l'impulsion donnée par un chef-d'œuvre doit se propager et se continuer jusqu'à ce qu'elle s'épuise dans la série d'imitations de plus en plus faibles. L'histoire d'une fille de ferme, en famille, l'héritage, mon oncle Jules, les bijoux, l'enfant, 10 autres que nous avons cités, 20 autres que nous pourrions citer, donne cette impression qu'est celle-même qu'on cherche à produire en art. C'est l'impression de la plénitude et de la perfection du rendu, venant de ce que l'idée a été complètement réalisée et l'effet obtenu justement par les moyens appropriés. Il n'y a ni manque ni d'excès, mais rien que justesse, harmonie, équilibre. C'est d'abord la proportion du cadre avec le sujet. car cela a son importance, bien qu'on l'ignore généralement et que ce soit assez l'habitude de faire tenir une simple anecdote dans les dimensions d'un tableau d'histoire. Le milieu est nettement indiqué afin que les personnages y viennent prendre leur place comme d'eux-mêmes et afin qu'ils y baignent dans leur lumière naturelle. Ceux-ci nous sont présentés de face, en quelques traits bien appuyés, ce qui signifie et qui tiennent lieu de tous les autres. Dans l'individu physique, l'être moral apparaît déjà. Il achève de se dessiner et il se révèle entièrement à mesure que le personnage parle et qu'il agit. Maupassant possède un degré imminent, ce don du récit, qui est aussi bien un don de la race, celui qui consiste à faire se dérouler une aventure ou plaisante ou tragique et la mener, en suivant l'ordre naturel des faits, vers un dénouement rapide. Et il se transforme avec une telle prestesse dans chacun de ses personnages, et il nous fait si bien entrer avec lui dans l'intimité de chacun, dans cette intimité grâce à laquelle rien ne semble plus indifférent, qu'en vérité nous arrivons à trouver de l'intérêt à l'aventure de ce cochon de Morin et à l'histoire de la bête à Ahmed Bellhomme. Cela est conté d'ailleurs dans un style si clair, si sobre et surtout si simple, avec un tel bonheur d'expression venu non de l'imprévu des termes mais de leur justesse, qu'il semble bien qu'il n'y eut pas moyen d'en employer d'autres et que ceux-ci n'ont pas été choisis entre plusieurs mais qu'ils sont venus d'eux-mêmes, attendu qu'ils étaient les seuls. Ce style de Maupassant échappe presque à l'étude. Il fera à jamais l'admiration de tous les curieux de bonne langue française et le désespoir de tous les chercheurs de curiosité grammaticale. On pourrait en dire autant de ces nouvelles elles-mêmes. Plus on en goûte profondément la valeur, et moins on se sent capable d'en parler longuement. C'est Voltaire qui disait qu'on ne commente pas Racine, parce qu'il faudra mettre au bas de toutes les pages « beau, admirable, sublime ». Ce dont au surplus les commentateurs ne se sont pas fait faute. Au bas de presque toutes les nouvelles de Maupassant, il faudra mettre « cela est la perfection elle-même ». On a comparé Maupassant à La Fontaine. C'est un La Fontaine qui n'a pas la même légèreté de touche, pas la même insouciance non plus et qui n'a pas d'esprit. On l'a rapproché de Mérimée. C'est un Mérimée qui n'en a ni la distinction, ni le scepticisme détaché, ni les raffinements de cruauté. Mais ce qui importe, ce n'est pas qu'il ressemble de plus ou moins loin à celui-ci ou à cet autre, c'est qu'il est un génie dans la tradition. Il a des ancêtres dans toute la lignée des écrivains de souche purement française. Sa verve remonte jusqu'à celle des vieux conteurs gaulois. Et Villon, qui parlait avec la même ardeur sensuelle du corps de la femme, qui tant est tendre et soif, tremblait avec la même épouvante devant les affres de la mort. Maupassant a tous les traits qui caractérisent la race, il n'en a point d'autres. Dans son clair génie, il n'y a nulle infiltration du génie étranger. Cela même, à la date d'aujourd'hui, pourrait lui faire une originalité. Les limites de son esprit sont aussi bien celles dont l'esprit français ne sort que rarement. Ni rêveur, ni mystique, incapable de comprendre toute idée ou trop abstraite ou trop compliquée, médiocrement sensible au jeu des couleurs et à la musique des phrases, il est curieux des spectacles de la vie et s'applique à rendre dans ce qu'ils ont de plus particulier les cent actes divers de l'ample comédie. C'est avec ce fond de tempérament français et gaulois qu'il a traversé la société d'aujourd'hui. Venu dans une époque d'extrême civilisation et d'infinie lassitude, il a, par l'effet même de sa rude vigueur, traduit plus fortement que les autres ce dégoût de toutes les œuvres de l'esprit et pareillement la désolation de la créature réduite à ne rien apercevoir au-delà des transformations de la matière. Et venu dans une époque où la littérature, moins soucieuse de la vie intérieure qu'elle ne l'était jadis, s'attache surtout à décrire les rapports des hommes entre eux et ceux qu'ils soutiennent avec les choses, il a donné de la vie une traduction et de l'art une expression qui, en dépit de différences profondes venues de la différence des temps, s'en vont rejoindre à travers les siècles le réalisme des maîtres classiques. Ainsi s'achève l'œuvre de Guy de Maupassant de René Doumic.